On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Ceci n'est pas une arme.
Ceci n'est pas une arme.
C'est juste un son. C'est juste un son qui vous domine.
Je pénètre en vous. Je prends le contrôle. Essayez de fermer les oreilles. Vous ne pouvez pas.
Ceci est une arme.
Vous ne pouvez pas.
Ceci est une arme.
Vous ne pouvez pas.
Ceci est une arme.
Alors, qui est le plus fort ?
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors aujourd'hui, comme vous savez peut-être et que les oreilles n'ont pas de paupières, nous allons discuter son.
Voilà, puisqu'on reçoit aujourd'hui Juliette Vauclair pour son livre paru aux éditions La Découverte, Le son comme arme. Donc vous l'avez compris en introduction, le son est beaucoup plus que du son, le son peut faire bien mal et on parlera un petit peu du son dans le domaine des armes létales et non létales. Et on commence tout de suite en se rappelant un mythe, puisque le son ne date pas d'hier et il y a très longtemps déjà, les trompettes de Jéricho sonnaient.
Ou pas.
Elles ne sonnaient pas, elles n'ont pas réussi.
Pourtant, elles ont normalement cassé le mur.
Voilà, normalement,
c'est ce qu'on
le mur.
Dit.
Les fameuses chauffards. Les,
ce sont des ultrasons, en fait. Ouais. Ne pas entendre.
Et il y en avait beaucoup, beaucoup.
Sinon, on peut mettre directement la plage 2 du CD et nous aurons.
Hallelujah, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Joshua with the battle of Jericho. Hallelujah, Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Hallelujah. Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho and the wolf came tumbling down.
Josué a livré bataille à Jéricho. Josué a livré bataille à Jéricho et les murs se sont écroulés, Aude.
Bah oui, le mythe ne date pas d'hier. Le mythe du son qui va détruire, le son comme arme, c'est justement l'objet de notre dossier d'aujourd'hui. Et c'est Juliette Vauclair qui va nous en parler, puisqu'on la reçoit ce soir. Bonsoir Juliette.
Salut.
Donc tu as publié aux éditions de la Découverte Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son. Donc on va voir un peu l'épopée du son comme arme, puisqu'on voit que justement ça ne date pas d'hier. Il y a des mythes et aussi des réalités qu'on va avoir. Mais avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, justement, peut-être savoir qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet qui n'est a priori pas très très étudié.
Déjà, j'ai une pratique de la radio qui a d'ailleurs commencé dans cette émission précisément à l'époque où FPP était rue d'Aubervilliers à AG45. Et donc cette pratique de la radio, et notamment en radio associative, donc est très liée aussi à l'autoformation et puis à la polyvalence, quoi, le fait de toucher un petit peu à tout. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la technique du son. Et puis simultanément, en fait, je voyais émerger des articles qui n'avaient pas de lien entre eux, enfin, ou, en tout cas, il n'y avait pas de lien qui était fait. Déjà, des articles sur l'usage de la musique comme moyen de torture à Guantanamo. Ça, tout ça, c'était à la fin des années 2000, en gros. Ensuite, l'usage de ce que les médias ont nommé des canons à son, qui sont des LRAD, dont on va parler plus tard, dans les manifestations en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, mais également dans d'autres pays, y compris des pays moins développés. Et puis l'usage, notamment en Grande-Bretagne, dans les rues, de ce qui s'appelle un mosquito, c'est-à-dire c'est un générateur de très haute fréquence, qui ne sont pas des ultrasons, mais qui sont très hauts. Enfin, juste pour définir très rapidement, les fréquences, c'est quelque chose... Enfin, quand je vais dire une très haute fréquence, c'est comme si je disais une note très aiguë, en gros, et une très basse fréquence, une note très grave, quoi. La fréquence, c'est le terme qu'on utilise pour définir la hauteur du son. Donc le mosquito, c'est un générateur de très haute fréquence qui est utilisé par des commerces en Grande-Bretagne, on y reviendra plus tard. Mais du coup, en fait, il y avait tout à coup à la fois un usage du son dans les interrogatoires militaires, donc dans des théâtres de guerre, quoi. Un usage du son dans un contexte de maintien de l'ordre, dans les manifestations, et un usage du son de manière urbanistique quasiment, ni par les policiers, ni par les militaires, mais par des commerces. Et en fait, je trouvais intéressant d'essayer de comprendre ce qui était en train de se passer, puisque ça semblait devenir quand même quelque chose d'assez présent. Et puis, il y a d'autres dispositifs que j'ai découverts par la suite au cours de la recherche.
Et alors, comment on explique ? Parce que dans ton livre, on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont commencé à étudier ça ne sont pas françaises. Qu'en fait, il y a très peu d'études en France. Et ton ouvrage, du coup, constitue une première synthèse et du coup, traduction aussi de ce qui s'est fait un peu jusqu'à présent. Comment ça se fait que la France s'intéresse si peu, ou les chercheurs français s'intéressent si peu à cette question ?
Je pense que la France s'y est intéressée. Après, y a plusieurs raisons. Là, effectivement, l'essentiel de mes sources sont anglo-saxonnes, pour ne pas dire qu'elles proviennent des États-Unis. Il y a une raison assez simple, c'est que les États-Unis ont un rapport assez schizophrénique avec le secret, c'est-à-dire ils maintiennent ardemment un secret, et puis voilà. Et puis dans la dizaine d'années qui suit, on retrouve toutes les archives sur Internet. Enfin, toutes, j'exagère. Mais en tout cas, il y a une masse de données considérable de l'administration états-unienne. Donc je vais faire un peu chier, je vais dire états-unien en fait, parce qu'américain, ça se dit mieux, mais je trouve vraiment que c'est un abus de langage, donc je vais dire états-unien.
C'est bien pour les gens qui habitent à côté des
voilà,
États-Unis,
qui habitent au Canada,
ou bien
au Mexique
aussi.
Donc voilà. Donc les archives états-uniennes, en fait, on les trouve assez facilement sur Internet, et ou bien il y a ce qui s'appelle le Freedom of Information Act aux États-Unis, qui a été institué il y a quelques années, je ne sais plus quand. Mais ça fait déjà pas mal d'années, dans les années 60, il me semble. Enfin bon, ça, je ne garantis pas. Mais qui garantit à chaque citoyen des États-Unis le droit de demander à l'administration une déclassification de ses archives secrètes au nom de la liberté d'information de toute personne. Et donc, bon... Ce droit n'est pas forcément toujours très respecté. Disons qu'il faut insister un petit peu auprès de l'administration. Mais le fait est que, du coup, il y a pas mal de choses qui deviennent disponibles. Donc ça, c'est la première raison. C'est cette tradition-là des États-Unis. Ensuite, le fait est que les États-Unis sont la principale industrie de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, tout simplement, ils ont été beaucoup plus prolixes et beaucoup plus inventifs. Et ils ont eu beaucoup plus de moyens pour développer des recherches tous azimuts et des expérimentations sous azimuts. Donc, de fait, ils ont beaucoup, beaucoup porté cette recherche-là. Après, en France, il y a eu certainement des recherches. On en parlera notamment sur les infrasons, il y a eu quelques recherches, mais il n'y a pas eu de... Enfin, il ne semble pas en tout cas y avoir eu vraiment de programmes extrêmement structurés. Enfin, j'en ai pas trouvé. Et puis là, quand je me suis vraiment plus intéressée à la période contemporaine, Là, le dernier livre blanc de la Défense mentionne l'armement acoustique, mais uniquement comme technologie comme sonar, quoi, comme technologie d'exploration et de captation, voilà. Mais pas du tout comme technologie offensive. Et quand on plonge un peu dans les appels à projets de la DGA ou dans les pistes de recherche de la DGA, de la donc Direction générale de l'armement, aujourd'hui, c'est essentiellement le son. Il est considéré vraiment uniquement comme outil d'exploration. Et à peu près rien qui est fait dans le domaine offensif. Là, ils utilisent des ondes électromagnétiques, mais ça n'a rien à voir avec le son, donc je n'en parlerai pas.
Mais alors concernant le son, on s'aperçoit aussi qu'il y a énormément de recherches et puis il y a énormément de déchets. Il y a déjà beaucoup d'espérance en fait dans ce que pourrait apporter le son en termes de maintien de l'ordre et de puissance militaire, et puis finalement souvent ça n'aboutit pas, et il y a aussi souvent un manque d'information aussi sur ces armes, et du coup il y a aussi des fantasmes qui se développent, alors qui peuvent être des fantasmes produits directement par les fabricants pour dire on a les armes les plus fortes du monde, mais aussi du coup par tous les autres qui voient là-dedans un nouvel outil de contrôle absolu. Comment toi t'as fait un peu le tri là-dedans, est-ce que tu pourrais du coup nous raconter un peu les plus grandes anecdotes un peu drôles de sons ou d'armes sonores qui auraient dû exister et qui n'existent
qui
décidément pas.
Comment j'ai fait le tri, j'ai bossé dessus, ça je ne l'ai pas dit au départ aussi, mais j'ai commencé en fait le travail par un long article pour Article 11, qui est un site indépendant, donc qui est sur article11.info. Et cette première enquête, elle est toujours disponible sur le site actuellement. Vous pouvez la télécharger comme ça librement, quoi. Le bouquin a beaucoup, beaucoup complété, quoi, à partir de ça, puisque là, c'était quand même déjà un petit peu de recherche, un premier défrichage. Et après, je me suis plongée dedans sur vraiment plusieurs mois de manière assez intensive pour essayer de comprendre, de débroussailler effectivement telle arme qui avait l'air, qui était présente partout sur Internet. Je comprenais. Moi, elle me semblait un peu bizarre. Je comprenais pas très bien comment ça pouvait marcher, des trucs comme ça. Et comment j'ai fait ? Je me suis beaucoup appuyée déjà sur le travail d'un chercheur allemand qui s'appelle Jürgen Altmann, qui est le seul bonhomme, en fait, qui ait fait une recherche indépendante sur les armes acoustiques, très spécifiquement. Après, il a travaillé sur d'autres armes à énergie dirigée, donc sur des lasers également, puisque les armes acoustiques sont parfois classées dans cette sous-catégorie-là d'armes à énergie dirigée. Et Jürgen Altmann, donc, il a pris tout simplement la presse. Il a fait son étude, donc elle date de 1999. Et il a eu accès, lui, à tous les archives des chercheurs dans différents pays, enfin essentiellement États-Unis et puis Allemagne ailleurs. Et il a confronté en fait les allégations qu'il y avait, les allégations des fabricants d'armes, avec les résultats que soit lui trouvait, soit d'autres chercheurs avaient trouvés. Et ça donne des résultats assez fantastiques, quoi. C'est-à-dire on trouve par exemple une consultante pour l'armée états-unienne, qui est d'ailleurs elle-même auteure de science-fiction, ce qui n'est pas anodin, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais il y a ce doux mélange qui est vraiment entretenu au plus haut niveau de l'administration militaire aux États-Unis entre justement la recherche scientifique et des domaines, disons, un petit peu plus ésotériques, quoi.
Il y a presque un côté croyance, en fait.
Oui, un des bonhommes qui a vraiment porté le développement de l'armement non létal, il se définit comme thanatologue, par exemple. Ce qui est assez original, c'est un général, hein, c'est un très haut gradé. Il y a toujours ce mélange-là qui est entretenu par eux. Moi je me suis appuyée sur Jürgen Altmann, également sur un travail de longue haleine d'un laboratoire de l'université de Bradford en Grande-Bretagne, et a fait un travail de veille de 1997 à 2007 sur le développement de l'armement non létal. Et je suis pas trop d'accord avec eux sur ce qu'ils disent sur leur conclusion sur l'armement acoustique, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, ils ont été à tous les symposiums internationaux possibles et imaginables auxquels j'avais pas accès. J'ai fait la recherche là avec mes petits moyens vraiment. Donc j'ai fait avec ce que je trouvais. J'avais pas accès à des archives particulièrement. Voilà, j'avais pas accès au secret des militaires. On m'invitait pas à discuter avec eux, quoi. Et donc eux, ils ont suivi l'évolution sur une dizaine d'années. De l'armement non létal aux États-Unis et ailleurs.
Quand tu parles de non létal, ça veut dire quoi exactement ?
Ouais, alors la non létalité, c'est un concept qui s'est vraiment formalisé dans les années 90, mais qui émerge bien avant ça. À partir des années 60, ça, le terme arrive de temps en temps, mais c'est pas vraiment une doctrine, quoi. Dans les années 90, les États-Unis, ils montent un groupe de recherche sur l'armement non létal et un programme de développement de l'armement non létal, qui réunit conjointement en fait à la fois la marine, l'aviation, l'armée de terre, etc. L'armement non létal, en fait, la non létalité, le concept, c'est de dire qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle plutôt des armes moins létales, ou bien j'ai vu un truc encore plus original il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à létalité maîtrisée. C'est-à-dire on peut décider si vous êtes plus ou moins mort ou pas. Bon, l'armement non létal, son objectif, c'est de neutraliser l'ennemi sans nécessairement le tuer. Au départ, elles étaient, ce qui est très intéressant, elles étaient appelées armes rhéostatiques. Et le terme est barbare, mais en fait, il est beaucoup plus représentatif de ce qu'il y a derrière cette idéologie de la non létalité. Le rhéostat, c'est en fait un appareil qui permet de mesurer l'intensité du courant qui va passer dans un circuit et de décider de l'augmenter ou de le baisser à volonté. L'armement non létal, c'est exactement son objectif. C'est de produire des effets qui aillent de la non-létalité totale, c'est-à-dire qu'ils soient juste, qu'ils produisent juste une gêne, jusqu'à éventuellement la mortalité. Voilà, c'est l'objectif. Et après, j'ai un petit peu dévié par rapport à ta question, Raphaël, sur les fantasmes.
Ces fameux sons, parce qu'on imaginait à un moment, par exemple, que les basses fréquences allaient produire nausées, et puis peut-être même diarrhée. On a parlé à un moment d'un son marron, par exemple.
Il y a eu cette... Alors, après, il y a aussi des groupes qui s'en sont un petit peu emparés. Par exemple, Throbbing Gristle, qui était un groupe de musique industrielle, qui s'est pas mal amusé avec les infrasons et les ultrasons. Et le gros mythe, c'était que quand on allait dans leur concert, on allait avoir des orgasmes spontanés ou bien on allait avoir des défécations involontaires, quoi. Donc, bon, voilà, choix. En réalité, les infrasons produisent absolument ni l'un ni l'autre, malheureusement ou heureusement. Et, mais ça, c'est une très vieille légende, en fait, sur les infrasons, qui seraient donc la note brune, c'est référence justement à ces défécations involontaires. Les militaires y croyaient dur comme fer. Hein. Aux États-Unis, on trouve des rapports dans les années 60 où les gars disent « Oui, nous allons, la cible aura l'impression d'être bombardée par une pluie de coups de poing et ils vont se liquéfier dans des secousses diarrhéiques. » C'était marqué dans les rapports de l'arme qu'ils étaient en train de construire. Bon, ça a complètement foiré, heureusement, comme beaucoup d'armes. Mais effectivement, il y avait ce truc-là parce que les infrasons sont des fréquences très basses, donc des notes très basses, des notes ou des sons très très bas, très graves, et qui sont tellement graves en fait qu'on ne les perçoit pas, ou on les perçoit beaucoup moins. En revanche, le son à très basse fréquence, il a un impact plus fort sur les autres parties du corps que l'oreille. Par exemple, on peut le ressentir, c'est par exemple l'effet que vous ressentez quand vous mettez à proximité des d'enceintes qui envoient de la musique avec des basses, vous ressentez les vibrations dans votre corps. Bon, bah voilà, et les militaires aussi, ils avaient cette expérience-là, et donc ils se sont dit, et si on poussait vraiment jusqu'au plus fort niveau, on n'entendrait pas le son, mais ça pourrait exploser les gens à l'intérieur. Et c'était un petit peu l'objectif. Et ce qui est d'ailleurs marrant, c'est qu'on retrouve dans des jeux vidéo aujourd'hui, des jeux vidéo en réseau, quand on regarde un petit peu les armes acoustiques dans les jeux vidéo, à quoi elles servent à faire exploser l'ennemi de l'intérieur. C'est assez drôle. Enfin, le truc a continué à rester complètement, complètement intriqué. Après, sur les nausées, le son, peut-être pour bien démarquer en fait, ce qui relève du fantasme et de la réalité, je peux faire un petit topo sur les effets que peut avoir le son. Le son peut effectivement avoir des effets en dehors de, enfin, autre que sur l'oreille, ça c'est certain. Par exemple, il a été étudié que à très fort volume, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent au-delà de 150 décibels, des infrasons, des sons de très basse fréquence induisent un sentiment d'oppression au niveau de la poitrine, éventuellement d'une gêne respiratoire. Mais rien de dramatique, quoi. Ça a été testé sur des cobayes volontaires. Ils n'ont pas trouvé l'expérience agréable, mais ils n'ont pas explosé de l'intérieur, disons. Après, il peut y avoir aussi des effets de... Toujours à très fort volume, puisque le son n'est efficace qu'à très fort volume. Enfin, n'est efficace militairement parlant qu'à très fort volume. Il peut y avoir des effets comme une légère nausée. Il peut y avoir des effets comme éventuellement quelques maux de tête. Mais c'est vraiment tout ça est relativement anodin par rapport en fait à ce qui était revendiqué par les militaires et par les scientifiques à une certaine époque. J'oublie pas mal d'effets. Éventuellement, le son de très très haute fréquence, c'est-à-dire très aigu. Si on l'envoie à très fort volume, il y a une sensation de chaleur qui peut apparaître sur la peau, ce qui fait que il y a la société la plus représentative de la recherche aux États-Unis, qui s'appelle la société SARA, a voulu créer une arme donc non létale mais rhéostatique, avec des ultrasons, donc tellement aigus en fait qu'on ne peut pas les entendre. Et ces ultrasons, leur objectif, c'était de créer une fièvre acoustique avec.
Ça donne un peu la chair de poule, comme il peut y avoir quand il y a une craie sur un tableau, par exemple.
Les ultrasons, je ne sais pas. Mais la sensation de chaleur, oui. Une sensation de légère brûlure. Mais bon, ça n'a jamais été... Jürgen Altman dit qu'il faudrait vraiment y aller très, très fort avec les ultrasons et puis vraiment maintenir la personne pendant... une heure dans un caisson bombardé d'ultrasons pour que éventuellement elle meure à la fin quoi. C'est-à-dire si c'est ça l'objectif des militaires, il y a d'autres armes qui beaucoup plus rapidement peuvent tuer quelqu'un quoi. C'est pas du tout la peine d'utiliser du son quoi. C'est vraiment aberrant d'un point de vue militaire et stratégique quoi, cet usage du son. Après, Jürgen Altman par contre reconnaît, là c'est plus crédible, que une onde de choc, c'est-à-dire une explosion en fait, peut à très très forte amplitude, donc à très très fort volume, donc un volume de 210 dB, ce qui est absolument considérable, ce qui, même tout l'armement, l'armement actuel, l'artillerie actuelle, ou les canons et tout ça, ne vont pas jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un truc assez expérimental, assez hypothétique, mais lui estime qu'à 210 dB, ce serait tellement fort que ça produirait effectivement des hémorragies internes, qui asphyxierait la personne au bout du compte. Mais là, on est vraiment dans un domaine... Enfin, on est assez loin des allégations qui disent « Ouais, on peut tuer avec le son. » C'est vraiment pas si simple que ça. Et en plus, c'est assez aberrant au niveau juste pratique, quoi.
Mais en même temps, ça, c'est de la recherche au niveau des ultrasons et des fréquences donc, de ce type. Mais on comprend que ça peut être compliqué. Mais en même temps, est-ce que le son ne peut pas être plus létal tuer dans ce qui est ce qu'on peut appeler ce que tu appelais dans le livre, en tout cas les armes à détonation, où là, on peut imaginer que le son est plus fort. Enfin, je ne sais pas, je dis ça de manière profane. Ouais. Et du coup, là aussi, il y a eu des recherches, et je crois même un peu fantaisistes. Par exemple, sous le Troisième Reich, j'avais noté qu'il y avait un pôle de recherche qui voulait faire un canon à vortex. C'est un phénomène qui est une sorte de tourbillon où les particules fluides s'enroulent en spirale autour d'une zone de basse pression. Là, je te cite dans le livre. Et l'idée, c'est de pouvoir casser les ailes d'un avion. Donc là, oui, on arrive dans un autre domaine. Et là aussi, il y a des fantasmes pour pouvoir tuer à distance.
Bah, le truc, le fantasme qu'il y a autour du son, c'est effectivement tuer de manière invisible, éventuellement inaudible et à distance. Et sans que la personne comprenne du tout ce qui se passe. Et effectivement, les nazis ont été parmi... Enfin, moi, j'ai vraiment commencé ma recherche à partir de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des trucs avant, mais je ne les ai pas étudiés. Donc à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est clair que les nazis se sont intéressés directement à un usage létal du son. Et eux ont utilisé les vortex ou les explosifs. Et le vortex, c'est un phénomène naturel. Quand l'eau elle rentre dans la bombe de votre évier, elle fait un petit tourbillon, c'est un vortex. Et donc, eux voulaient créer un vortex d'air à partir d'un canon qui propulserait une sorte de bouchon d'air à une vitesse énorme et à une amplitude énorme. Et ça a foiré. Comme le reste de, de leur tentative, ils ont fait un autre canon à air qui n'a pas plus réussi... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les nazis, c'est qu'eux, on retrouve très souvent sur Internet, si vous tapez « canon à son nazi », vous allez assez facilement retrouver sur Internet des références, voire des photos. Mais là, pareil, c'est assez symptomatique, c'est qu'on trouve rarement deux fois la même description de l'arme. Les photos, elles sont attribuées une fois à une arme, soit à une autre arme. Le nom des scientifiques est interchangeable, tout. Et là, en l'occurrence, comment j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé la source de toutes ces photos, qui est un seul et même bouquin, qui est un compte-rendu d'enquête d'un général états-unien qui avait été envoyé là-bas au sein d'une commission à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, pour faire le point sur l'avancée de la recherche nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale, puisque les États-Unis se sont intéressés de très près, de tellement près qu'ils ont même embauché des scientifiques nazis par la suite. Ils se sont intéressés de très près aux recherches qui avaient été faites par les nazis, pour la bonne raison que les nazis n'avaient absolument aucune limitation en termes de létalité ou non létalité. Ils pouvaient mener leurs expériences absolument jusqu'au bout. Il n'y avait pas d'interdit moral à les mener. Donc effectivement, là, on pouvait s'en donner à cœur joie, quoi.
Alors là, on parle beaucoup des échecs. On a l'impression que militaires, chercheurs, policiers et hauts cadres de la sécurité sont un peu des branquignols qui tentent et engloutissent des sommes considérables dans des budgets de défense avec, au final, de grands échecs. Et pourtant, quand même, il y a quelques réussites.
Oui.
On en a vu un exemple, par exemple, en 2005 à Gaza, avec un système d'ondes de choc.
Le canon à détonation, oui.
Voilà, okay, et puis sinon, aux avions... Ouais. Passant à basse altitude au-dessus de la bande de Gaza et donc créant une onde de choc.
Ouais. Et oui, effectivement, il y a des dispositifs bien réels qui existent et c'est pour ça que pour moi, l'intérêt principal, ce qui m'a le plus intéressé, c'est justement d'étudier de faire le partage entre ce qui relevait de la rumeur et du fantasme et ce qui relevait de l'information, du fait scientifique. Pas seulement pour... comment dire, pas seulement par souci de l'information, etc. Il y avait ça, naturellement, mais c'est aussi qu'en fait... le fantasme joue vraiment pleinement un rôle de brouillage des pistes, total. Et c'est utilisé de manière extrêmement consciente, ça, par les militaires et par les fabricants d'armes. Et y compris, maintenant, c'est utilisé aussi par la police, ce type d'armes. Enfin, pas les canons à détonation, mais le LRAD. Et c'est utilisé de manière très consciente, cette peur que suscite l'arme acoustique, le fait qu'on ne comprend pas du tout comment ça va fonctionner, on ne sait pas comment s'en prémunir... voilà, donc en fait l'effet psychologique fait pleinement partie de l'arme acoustique. Alors après, effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont réussi. Et c'est d'autant plus important en fait de bien dire, de pas... Il faut vraiment prendre conscience des fantasmes et franchement en rire quand c'est risible, ou bien, enfin c'est risible et en même temps c'est pas risible, parce que c'est un peu désolant de lire la prose des hauts gradés et puis des scientifiques qui travaillaient pour eux. C'est très important en fait de bien montrer là où il y a du fantasme. C'est tout aussi important de pas minimiser les armes réelles qui existent, parce qu'il y a aussi un peu cette tendance là de dire oui, c'est l'autre, le basculement complet de l'autre côté, c'est de dire c'est du son, donc c'est pas grave quoi, ça fait rien et tout. Non, c'est pas rien quand même quoi, il faut garder un certain équilibre. Non, Israël a développé plusieurs armes et notamment a développé donc un canon à détonation qui, en fait, initialement, s'est utilisé, comme beaucoup d'armes non létales, contre des oiseaux. C'est un système, une sorte d'épouvantail automatique, en fait, à oiseaux. Et c'est utilisé de manière assez massive, mais y compris en France, hein, des petits canons à détonation pour protéger les champs. Ça permet d'envoyer une impulsion sonore qui effraie les oiseaux et qui s'envolent du champ. Et puis, il y a des différentes variantes. Parfois, on lance aussi le cri de prédateurs des oiseaux qui viennent sur le champ, ou bien le cri d'un oiseau blessé, ce genre de choses. Et une des sociétés... PTD Agro, PTD c'est pour Pulse Detonation Technology, qui est donc cette technologie qui est utilisée. PTD Agro, c'est une société israélienne qui avait breveté donc un canon à détonation contre les oiseaux, qu'il appelait un canon effaroucheur. Et en fait, les militaires israéliens s'y sont beaucoup intéressés et puis ont chargé en fait la société Armitech, qui n'est plus du tout dans le domaine de l'agriculture, mais qui est dans le domaine franchement militaire, tout simplement de développer une version pour les humains. Et donc, c'est le même principe. Donc, c'est un canon qui envoie des détonations à très forte amplitude et très brève, et qui, contre les humains, du coup... Alors là, le canon à détonation, c'est une sorte de festival, justement, de rumeurs, de fantasmes militaires, parce qu'on a des informations extrêmement parcellaires dessus, y compris le fabricant dit que ça peut tuer à moins de 50 mètres... ce qui me semble un petit peu étonnant parce que donc selon ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut une amplitude quand même considérable de 210 dB pour tuer. Ça semble un petit peu improbable, mais en tout cas l'effet que ça a très probablement, c'est de on ressent comme une on est, enfin, comme si un bouchon d'air arrive dessus, quoi. Donc on est vraiment un peu propulsé en arrière par ce truc-là, quoi, ce qui doit vraiment pas être du tout agréable. Après, Israël a également inventé une autre arme qui s'appelle le chauffar, S-H-O-P-H-A-R. Le chauffar étant le nom juif. Le nom ancien, quoi, le vrai nom, d'une trompette rituelle juive qui était utilisée dans les cérémonies. Et les trompettes de Jéricho, c'était des chauffards, notamment. Donc voilà, grosse référence religieuse du fabricant à Jéricho et à la Bible.
Qui, on le rappelle quand même, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais les trompettes de Jéricho ont permis de faire tomber les murailles qui entouraient...
Les trompettes et les cris des Hébreux.
Ouais.
Mais il y en avait 700 et c'est horrible, parce que dans la vraie vie, les scientifiques ont calculé que ça ne marchait pas.
Bah, disons que c'est difficile, quoi. Oui, ça semble un petit peu improbable. Mais bon, après, c'est une belle légende. Donc le chauffard, c'est une arme qui ressemble beaucoup au LRAD qui a été développé aux États-Unis et qui, en fait, qui ressemble beaucoup à ce qui se fait, ce qui est vraiment assez massivement développé dans l'armement acoustique actuellement, c'est-à-dire une série de haut-parleurs qui sont réunis ensemble pour donner plus de puissance et qui envoient une fréquence moyenne. C'est pas du tout de l'ultrason, c'est même pas très haut. C'est comme une alarme de magasin, en fait. C'est une fréquence qui n'est pas très haute, mais il envoie à très fort volume. Les militaires disent ça vous fait tomber par terre, ça vous fait vomir et tout. Ça ne va pas jusque-là. Il y a des témoignages de Palestiniens, parce que c'est utilisé actuellement dans les territoires occupés, ça. Il y a des témoignages de Palestiniens qui disent qu'ils se mettent du coton dans les oreilles pour s'en prémunir. Mais ça reste extrêmement désagréable parce que, bah, déjà, c'est dangereux pour l'audition. Essentiellement, c'est dangereux pour l'audition, en réalité.
Juste pour terminer, comme il y avait aussi, je crois que tu mentionnais les banques supersoniques, c'est les avions qui vont... parlait Raphaël aussi. Et ça procure quel effet? Enfin, qu'est-ce que c'est exactement et quel effet ça procure?
Alors ça, c'est effectivement un truc qui a été inventé de manière assez spontanée par l'aviation militaire israélienne. C'est le franchissement du mur du son par les jets militaires à très basse altitude, les jets de combat à très basse altitude, dans les territoires occupés. Ça, qu'est-ce que ça fait? En fait, le franchissement du mur du son, c'est quand un avion va plus vite voyage plus vite que la propre onde sonore qu'il produit en voyageant. Ce qui fait qu'il perce son onde sonore et ça crée un énorme bang. Et ça crée un bang, ça crée une onde de choc. Donc ça crée un bang et ça crée ce qui s'appelle aussi un blast. Et le blast, c'est l'effet de souffle, un effet de souffle énorme. Quand les jets militaires... font ça. En plus, ils le pratiquent souvent de nuit ou bien au petit matin, de manière assez aléatoire, mais ça revient toutes les heures, par exemple. Déjà, au niveau des bâtiments, au niveau des bâtiments, ça casse les vitres, ça crée des fissures dans les murs, donc on mesure l'ampleur du son, quoi, et puis de l'onde de choc. Et au niveau des humains, c'est assez terrible, quoi. C'est les enfants ont des crises de panique, ils n'arrivent plus à dormir. Enfin, tout le monde est complètement épuisé parce qu'ils sont sans cesse en train d'attendre que ce truc-là arrive. Mais les enfants sont absolument terrifiés par ce son, et voilà, ce qui est bien compréhensible. Même des gens de kibboutz, en fait, les ont entendus, puisqu'ils habitaient dans des kibboutz qui étaient proches des territoires. Et ils disent qu'ils ont l'impression d'être au milieu d'une bombe, que c'est un bruit tellement considérable qu'ils ont l'impression que quand ils vont sortir de chez eux, tout le reste de la rue aura disparu, tellement c'est fort. En réalité, le reste de la rue est toujours là, il y a des vitres pétées et tout. C'est, voilà, c'est aussi ce truc-là, l'effet du son. Et après, il y a eu, y compris, c'est allé assez loin, il y a eu, y compris... le rapporteur de l'ONU qui a dit qu'il y avait des cas de surdité très répandus dans les territoires occupés à cause des bangs, parce que ça, c'est sûr que ça bousille les oreilles, mais de manière assez drastique. Les femmes, le ministère de la Santé palestinien a dit qu'il y avait une augmentation des fausses couches pendant les périodes où les bangs étaient utilisés. Et y compris la Banque mondiale, en fait, l'a évoqué par un détour. Mais en disant que ça fragilisait la structure d'un lac d'un lac d'épuration, enfin d'une station d'épuration, mais ça la fragilisait au point de risquer une, enfin le fait que les eaux se déversent complètement et donc noient toute une vallée, etc. Donc il y a un risque sanitaire, non seulement sanitaire, mais un risque aussi de d'ensevelissement de villages entiers, quoi. Bon, ça, depuis, la station d'épuration, elle a été un petit peu réparée, mais ça va quand même jusque-là.
Alors, on parlait à l'instant du chauffard, donc en Israël. Il se trouve que les Américains ont inventé une arme relativement proche qui s'appelle le LRAD, donc le Long Range Acoustic Device, le dispositif acoustique à longue portée, qui a été créé à l'époque par la société qui s'appelait American Technology Corporation, qui a été rebaptisé depuis LRAD Corp, mais qui mieux que cette société peut présenter son produit phare?
À la suite de l'attaque terroriste contre le navire USS Cole en octobre 2000, American Technology Corporation a créé un dispositif à nul pareil. LRAD, le dispositif acoustique à longue portée.
Une arme sonique de haute technologie.
Un dispositif acoustique à longue portée, ou LRAD.
Le dispositif acoustique à longue portée, ou LRAD, est comme un projecteur audio. Quand vous vous tenez à côté ou derrière, vous pouvez parler normalement. Mais si vous êtes dans son faisceau, le son devient presque douloureux.
Grâce à son poids et à sa taille, le LRAD est facile à transporter, facile à mettre en marche, et s'installe presque partout.
Dont les passagers ont tout juste échappé à une attaque de pirates.
Plus d'informations sur cette étonnante attaque de pirates.
Un équipage formidable attaqué au large de la côte somalienne par les pirates du 21e siècle.
L'utilité de LRAD a été démontrée récemment en novembre 2005, quand des pirates ont essayé d'attaquer un navire de croisière au large de la côte somalienne.
Cet appareil nous permet de faire respecter la zone de surveillance navale à tout moment.
Pour engager la communication ou mettre en garde les adversaires non identifiés, le LRAD a démontré son efficacité dans plus de 80% des cas et a sauvé de nombreuses vies. Un produit American Technology Corporation, LRAD. Le dispositif acoustique à longue portée.
Ben voilà, ça a l'air génial, Juliette.
Ouais, c'est
LRAD,
bien, ouais. On faisait remarquer que ça avait le même son que l'alarme de FPP, mais quand même en beaucoup plus fort en réalité. Ben oui, oui, le LRAD, ça a été la première arme qui a vraiment fonctionné. ATC Corporation, en fait, avait été... les États-Unis ont mis un énorme budget sur le développement de l'armement acoustique. Il y a même eu un programme spécifique de développement d'armes acoustiques dans les années 90, qui a été stoppé en 99 parce qu'il avait foiré sur toute la ligne, quoi. Enfin, leur conclusion, c'était qu'on ne pouvait pas développer un armement acoustique. Mais en fait, il y a eu un renversement au début des années 2000. C'est que l'industrie, en fait, a repris le pas, en fait, sur la recherche. C'était plus les militaires qui étaient l'impulsion de la recherche, c'est l'industrie, en fait, qui s'est mise à dire, bon, bah, nous, on a trouvé ça, et tout. Et ATC Corporation, en fait, au départ, avait répondu à un appel à projet suite au 11 septembre 2001. Les États-Unis voulaient se doter d'une arme acoustique qui pourrait être utilisable à l'intérieur d'un avion, une sorte de fusil acoustique qui permettrait de cibler le porteur de la bombe ou le pirate de l'air, et de l'anéantir lui, mais sans bousiller la carlingue de l'appareil, et puis sans bousiller toutes les commandes de l'appareil, quoi. Et ATC Corporation avait proposé un truc qui s'appelle le bazooka acoustique, enfin, c'est le petit nom qu'ils ont donné à l'arme après coup, et c'était vraiment assez marrant, la manière dont ils décrivaient, encore une fois, ils disaient « on peut renverser une vache sur le dos avec ça », ou bien, si vous l'entendez, vous deviendrez tout vert, comme de l'herbe. Bon, en réalité, le bazooka acoustique, comme beaucoup d'armes, n'a jamais fonctionné. Mais ATC Corporation, après, a inventé le LRAD. Et donc, s'est appuyé sur la recherche précédente pour inventer le LRAD, qui, lui, a très bien fonctionné. Et donc, le LRAD, en gros, c'est quoi ? C'est un ensemble de petits haut-parleurs qui sont mis tous ensemble et qui diffusent en même temps, en phase, pour ceux qui connaissent un peu la technique, qui diffusent ensemble une alarme extrêmement forte. L'avantage du LRAD pour les policiers ou les militaires qui l'utilisent, c'est qu'il est très directif, ce qui va un peu à l'encontre d'une propriété du son qui est diffusée de manière sphérique autour de sa source. Et le LRAD, on peut le décider de l'envoyer droit devant dans un rayon de 15 à 30 degrés, ce qui est vraiment extrêmement fort pour, au niveau de la directivité du son. Et à une puissance qui peut aller jusqu'à 151 dB, ce qui est quand même plusieurs fois plus fort que, enfin genre trois fois plus fort qu'un avion au décollage. Donc vous imaginez la puissance possible. En gros, si quelqu'un parle dans un LRAD, vous l'entendez à 3 km. Vous l'entendez clairement à 3 km. Ça a été utilisé notamment en Irak, à la fois en mode alarme, là comme on a entendu dans cette petite pub de LRAD, mais on peut également brancher dessus simplement un micro, donc parler, ou bien on peut brancher dessus de la musique également. Et donc harceler tout un quartier avec de la musique à plein volume, ce qui a été fait en Irak. Pendant des jours et des nuits, ils ont bombardé un quartier de hard rock, de métal, de rap. Voilà. N'en déplaise aux amateurs de rap qui sont dans les studios. Et voilà, les GIs avaient du rap dans leur MP3, et donc ils branchaient sur les LRAD ce qu'ils avaient dans leur MP3. Et bon, en gros, le LRAD, effectivement, c'est un truc qui est extrêmement efficace parce que, bon, c'est pas... encore une fois, il faut un petit peu en finir avec les fantasmes. Est-ce que ça produit des nausées? Est-ce que ça fait tomber par terre? Bon, personnellement, j'ai jamais été confrontée. Quand on est tout près, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les 50 ou 100 premiers mètres, c'est extrêmement dangereux pour l'audition si c'est mis à plein volume et même si c'est mis à moins que le plein volume du LRAD. Ce qui pose un gros problème, quoi, parce que c'est utilisé en manifestation et donc ça permet complètement de vider une zone totale à l'intérieur de laquelle c'est strictement impossible de se tenir. On est obligé de s'en aller de cette zone-là parce qu'on ne supporte pas au niveau de l'oreille. Et ça a été utilisé en Irak, c'est tellement puissant que ça a été utilisé en fait pour nettoyer les toits des snipers. Les militaires arrivaient dans les rues et ils mettaient le LRAD, ils le dirigeaient comme ça sur les toits. Et les snipers, ils ne pouvaient rien faire d'autre que lâcher leur arme, se boucher les oreilles et partir en courant. Et là, ils se faisaient descendre par les GIs. Donc, ce qu'un universitaire britannique, Neil Davison, a dit, c'est un usage prélétal de l'arme. Ce n'est pas de la non-létalité, c'est de la prélétalité.
Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Tu as nommé plusieurs occasions. Ça peut être utilisé en maintien de l'ordre, contre des manifestations, ou bien même, comme tu l'as dit, en Irak. Est-ce qu'il y a eu d'autres utilisations et est-ce que c'est très répandu au niveau même des manifestations?
En Birmanie, ça a permis de réprimer des grévistes qui avaient l'idée de faire un pick and grève devant leur usine, l'usine Triumph. Et ils ont utilisé le LRAD, entre autres armes, parce qu'ils ont utilisé aussi d'autres choses comme des grenades assourdissantes, etc. Mais c'est utilisé en Birmanie, ça a été utilisé au Canada dans le contre-G20, le sommet anti-G20 à Toronto. Ça a été utilisé
à Pittsburgh aussi.
À États-Unis. Pittsburgh, voilà, ouais, aux États-Unis, ça a été utilisé pas mal de fois dans le maintien de l'ordre. Au départ, c'était développé plus pour la marine, parce qu'ils cherchaient une arme anti-pirate. Donc, une arme qui permettrait en fait de protéger un vaisseau, de garantir une zone d'exclusion de 500 mètres autour du vaisseau. Et pour la garantir, ils essayaient de trouver tous les moyens, des lasers, des trucs, des choses. Et en fait, il y a eu le LRAD qui a après également été associé à des lasers. Mais le LRAD permet de communiquer sur une très longue distance, à la fois pour avertir l'embarcation étrangère qui se présente, donc lui dire attention, n'avancez plus, nanana. Puis s'il persiste à avancer, là, on lui envoie l'alarme, quoi. On n'est plus en mode voix. Et ça a été utilisé la Chine, en fait. L'avantage du LRAD, c'est que c'est vendu comme dispositif de communication de masse, voilà, et pas comme arme. Et donc ça a permis aux États-Unis d'en vendre à la Chine, alors qu'il y a un embargo sur les ventes d'armes à la Chine depuis le massacre de Tiananmen, qui est normalement respecté par les États-Unis et par l'Europe, et qui est court-circuité dans le cadre du LRAD, parce que justement on dit que ce n'est pas une arme, c'est du maintien de l'ordre ou de la communication. Et depuis, la Chine a développé sa propre arme acoustique d'ailleurs. Mais donc il y a pas mal de pays qui commencent à s'en équiper, et donc Israël aussi a développé sa propre arme. En France, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais il y a un journaliste qui s'appelle Hassan Belmessous qui a fait un bouquin l'année dernière, ou il y a deux ans, qui s'appelle Opération Banlieue, et dans lequel il dit que la DGA a fait tester, a voulu faire tester le chauffard, donc l'arme israélienne, puisqu'il y a des accords de coopération entre la France et Israël, notamment au niveau de l'armement, a voulu faire tester l'arme israélienne aux gendarmes de l'armée de terre, qui ont refusé parce qu'ils avaient peur pour leurs oreilles. Ils n'avaient pas tort, puisqu'ils étaient censés la tester sur eux-mêmes. Et donc, puis après, ils se sont dit que ce serait probablement pas très bien accepté en France. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour en France, mais il y a quand même un groupe de travail qui planche dessus.
Alors en France, on n'a pas de LRAD, mais on a des idées. Et des idées, par exemple, aussi pour développer des grenades incapacitantes, parce qu'on a quand même une société fameuse, la Croix-Rougierie, qui ouais. fabrique des bombes assourdissantes. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que sont ces nouvelles armes aussi ?
Oui, alors c'est la Croix, c'est la branche la Croix Défense et Sécurité, la Croix Alcetex qui développe ça. Parce que Rougierie, c'est un ancien fournisseur de grenades, mais qui s'est, après avoir été absorbé par la Croix, qui s'est reconverti dans les feux d'artifice. Donc. Voilà, c'est la branche où il y a Alcetex qui développe les grenades. En fait, les grenades incapacitantes, c'est quoi ? Ce sont des grenades qui ne sont... Il y avait deux grands types de grenades jusqu'à maintenant, les grenades offensives et les grenades défensives. Les grenades défensives sont, qui sont utilisées par l'armée, enfin toutes sont utilisées par l'armée, mais les grenades défensives, elles sont faites pour tuer. Comme ça, c'est clair et net. Les grenades offensives, elles ne sont pas faites nécessairement pour tuer, ce n'est pas du tout leur objectif, c'est plutôt une erreur dans... voilà, c'est un problème collatéral quand elles finissent par tuer quelqu'un, mais en tout cas, ce n'est pas leur objectif. Après, elles continuent à causer des dommages assez importants. Et dans les années 60, aux États-Unis et ailleurs, notamment en Belgique et en France, il y a eu l'idée de, et en Grande-Bretagne et en Allemagne, il y a eu l'idée de chercher des grenades qui seraient ni offensives ni défensives. Qu'ils ont nommé, alors il y a différents noms, les grenades flashbang, puisqu'elles produisent un flash très intense et un bang extrêmement fort, ou les grenades incapacitantes, de manière plus générale. En gros, l'objectif de ces grenades, leur objectif commun, c'est de saturer plusieurs sens de la cible simultanément. Donc les oreilles, les yeux, et avec l'effet de souffle, le corps, quoi, créer un effet de recul. Ce que la France a en plus, c'est qu'il y a depuis 2004, en même temps que les tasers, en fait, les forces de l'ordre sont équipées de DMP, dispositifs manuels de protection, autrement nommés des grenades de désencerclement. Et en fait, ça, ce sont des grenades qui produisent donc un flash et un bang, mais elles sont recouvertes en fait de 18 plots de caoutchouc. Qui, quand il s'éparpille, frappe autour d'eux, quoi. Et ce qui apparemment est très désagréable, ce qui est décrit par les gens qui ont été confrontés comme une claque ou un coup de poing. Et il y a eu des cas, notamment recensés à Strasbourg pour le contre-sommet de l'OTAN il y a quelques années, de brûlures et de plaies, parce qu'un petit bout de caoutchouc, quand il est envoyé à une très forte intensité, ça peut faire vraiment très mal. Et il y a eu également des cas de problèmes auditifs causés par l'amplitude de la grenade, l'amplitude sonore, qui peut atteindre, je crois que c'est entre 165, 170 dB par là.
Alors du coup, on en arrive presque avec ces grenades multisensorielles qui essayent de saturer tous les sens. C'est un pont direct pour parler aussi du son comme arme psychologique et plus seulement perceptive et sensorielle. Tu parlais au début du début de ta recherche ou à la fin des années 2000, tu étais arrivé un peu dans ces questions-là à travers l'expérience, entre guillemets, Guantanamo, où la musique avait été utilisée comme arme psychologique. Je crois que c'est l'heure du Torture 50.
Abu Ghraib, Guantanamo, Bagram, Kandahar, Ben Guéry, ils sont tous dans Torture 50.
Salut les mosquitos et bienvenue dans cette nouvelle édition de Torture 50, le top des musiques de torture diffusées à Guantanamo & Co.
Torture 50. Le magazine musical sécuritaire présenté par Marc Tocard avec le soutien d'Ali Burton, de Carlyle et de LRAD Corp.
Et on attaque sans plus attendre avec la meilleure progression de la semaine en Irak. Il prend 6 places d'un coup, il se retrouve 43ème, c'est le fameux Staying Alive des Bee Gees qui a fait craquer 12 terroristes cette semaine.
Torture 50.
Cette semaine, il arrive dans le top de façon fracassante, comme un char venu apporter les lumières de la démocratie dans les rues de Bagdad. Demain, il sera à Tripoli, bientôt à Damas. Il s'agit bien sûr de Metallica, Enter Sandman, 32e cette semaine. Rappelons qu'il y a quelques classements, il était monté à la 7e place lors de la fameuse attaque de Lalafaloja.
Torture through music.
La torture avec de la musique.
C'est torture 5 ans. Metallica, 7e place cette semaine et en exclusivité pour Torture 50, nous avons rencontré James Hetfield, le leader du groupe qui nous livre ses sentiments sans détour.
Torture 50, c'est l'interview.
Alors James, ça fait quoi d'être number one à Fallujah et d'éclater des oreilles des habitants ?
It's not good,
ce n'est ni bien ni mal, c'est la liberté d'expression et j'adore ça.
Part of me is proud
Une partie de moi est fière parce qu'ils ont choisi Metallica.
It's strong.
C'est fort, c'est music musique
that's powerful.
Est puissante.
It represents
ça représente
something
quelque chose
that they don't like.
Qu'ils n'aiment pas.
Maybe freedom.
Peut-être la liberté.
Aggression.
L'agression.
I don't know.
Je ne sais pas.
Freedom of speech.
La liberté d'expression.
Ah, c'est clair, ça c'est direct, James. Nous aussi, on aime le politiquement incorrect.
I think our music.
Je pense que la musique est au-delà de la politique.
La politique
me fait chier. La politique sépare les gens. Je veux arriver par une autre voie.
Et nous aussi, la politique, ça nous saoule. Alors on repart en musique, à Guantanamo plus précisément, avec Eminem et son tube The Real Slim Shady, qui gagne 12 places et se retrouve 6ème.
America will win.
Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up?
Ça c'est de la bombe, un pur flashbang des familles.
Le bébé, oui.
A gagner cette semaine dans le grand quiz torture, des bombes assourdissantes, des LRAD de poche et des grenades sifflantes d'une puissance de 110 décibels. Wouh! Alors tout de suite, et sans plus attendre, la question quiz. Quel est l'âge du plus jeune détenu emprisonné à Guantanamo? 7 ans, 9 ans ou 15 ans? Vous avez la réponse? Appelez rapidement au numéro suivant, la compile Zenz Guantanamo numéro 6, offerte aux 50 premiers. Et pour la suite, oulala, du lourd, ça va rappeler des souvenirs au Fatma de Kandahar, un morceau qui a fait valser les voiles à plusieurs occasions et qui a remis le cochon au goût du jour. Voici The March of Pigs par Nine Inch Nails. Eh oui, il n'est toujours pas classé, mais il attend vos votes. Un petit bout de France à partager qui pourrait gagner quelques galons dans de nombreux centres de torture ou dans nos toutes nouvelles prisons Brig. Allez, cocorico pour le grand Michel.
C'est un cri, c'est un chant, c'est aussi le désert et le vent. Tout l'amour qu'elles ont dans le corps, la gloire des hommes, le chant des morts.
Ok, voici venu maintenant le moment que vous attendez tous.
Number one.
Qui est le numéro 1 cette semaine? Et sans surprise, pour la 13e semaine consécutive, c'est la reine de la Casbah qui tond les barbes et retrousse les djellabas dans la banlieue de Kaboul. Elle conserve sa première place sur le podium, Britney Wagbar. On se quitte avec un morceau d'amour que des barbus sanguinaires ne supportent décidément pas. Il a eu raison de 4 terroristes cette semaine dans le centre de torture de Temara au Maroc chez nos camarades de M6. Te marre pas, c'est de l'amour. Salut les mosquitos, à la semaine prochaine.
We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? I love you, you love me. We're best friends like friends should be. With a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me?
Voilà, c'est la fin du Torture 50, réalisé un soir avec Olivier, donc pendant une petite nuit blanche partagée ensemble.
Big up à Radio Canut.
Big up à Radio Canut. Le problème, c'est que c'est drôle, mais que tout est vrai, à part le petit Michel Sardou, qui est un ovni glissé au milieu. Mais sinon, c'est réellement les musiques diffusées à Guantanamo.
Oui. Et le dernier, là, le compositeur Bob Singleton, vous auriez également pu retrouver, comme pour Metallica, son interview dans laquelle il déclarait que c'est une chanson qui a été faite pour rassurer les petits-enfants et pour les entourer d'amour. Et donc, c'était extrêmement exagéré de dire que ça pouvait détruire le psychisme d'adultes et que la musique n'était pas un acte de vaudou. Et en fait, dire ça, c'est totalement méconnaître le développement tout à fait délibéré et extrêmement scientifique de ce qui s'est nommé la privation sensorielle, qui est donc précisément ce dans quoi s'inscrit cet usage de la musique. Et ça, ça a été fait à partir de... La CIA, en fait, dès qu'elle a été créée, donc en 1948, elle faisait suite à l'OSS, l'Office des Services Spéciaux, quelque chose comme ça, qui a été dissous parce que, justement, il y avait des problèmes un petit peu éthiques. Donc ils ont créé la CIA, mais ça n'a pas résolu les problèmes éthiques, puisque la CIA, un de ses premiers travaux... En fait, elle était complètement paniquée, comme les États-Unis, l'ensemble des États-Unis à l'époque, par ce qu'ils imaginaient être le lavage de cerveau soviétique ou chinois, le lavage de cerveau communiste. Et donc, il y avait cet énorme fantasme où ils étaient persuadés que l'URSS et la Chine avaient mis au point des techniques qui permettaient de retourner complètement la personnalité de quelqu'un et de robotiser quelqu'un. Et donc, la CIA a lancé un programme vraiment considérable sur plus de 10 ans. Et vraiment, là, on parle en milliards de dollars en termes de financement. Un programme de recherche sur les modifications du comportement, ce qui sonne... étrangement similaire avec les objectifs des armements létales, d'ailleurs, on pourra y revenir, de modification du comportement, et à travers essentiellement deux pistes. L'usage de psychotropes, donc ça a été notamment des expérimentations qui ont été faites au moyen de LSD, y compris sur des enfants en colonie de vacances, sur des clientes prostituées, etc. Mais ça a très vite été considéré comme assez peu probant. Et en revanche, la recherche qui a été poursuivie beaucoup plus longuement, c'est celle qui portait sur la privation sensorielle. Et là, c'était, on ne parle pas d'une petite recherche, quoi. On parle de 80 institutions, donc des hôpitaux, des universités, des laboratoires, à la fois aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, puisque les trois pays étaient associés dans ce programme, qui s'appelle le programme MK-Ultra. Et de recherche sur les modifications, comment on pouvait modifier le comportement de quelqu'un et la psychologie de quelqu'un à travers les manipulations sur ses sens. Et ça a été porté, les privations sensorielles, notamment les privations acoustiques, ont beaucoup été étudiées à l'université de McGill au Canada. Et dans cette université, les premières études étaient menées sur des cobayes volontaires, donc des étudiants en fait de la section psychiatrie de la fac. Et ils étaient par exemple mis dans des caissons complètement insonorisés. Ils avaient les yeux, ils portaient des lunettes en fait qui rendaient la vision floue. Ils avaient les oreilles bouchées, doublement bouchées. Déjà le caisson était insonorisé et en plus on leur mettait un truc sur les oreilles. Ils avaient des moufles. Et des habits qui les empêchaient en fait d'utiliser leur sens du toucher. Et donc au niveau olfactif, le caisson était absolument neutre, quoi. Et ce qui a été découvert en fait, et ce qui a été redécouvert, reconfirmé à chaque fois dans toutes les expériences ultérieures qui ont été menées donc dans les années 50 et 60, c'est que dans une situation de privation sensorielle, l'être humain perd ses repères en quelques heures. C'est d'une rapidité qui est terrifiante. Et perd ses repères, c'est-à-dire que il ne sait plus qui il est, il n'arrive plus à se repérer dans l'espace, il n'arrive plus à formuler ses propres pensées. Quand ces techniques ont été utilisées, notamment contre des prisonniers en Grande-Bretagne qui étaient supposés membres de l'IRA, un des psychiatres qui avait été mandaté pour étudier l'effet que ça pouvait faire, enfin, dans le cadre en fait, d'une commission d'enquête juridique, a déclaré que trois des détenus étaient devenus psychotiques en quelques heures, sachant que la psychose, c'est la forme la plus sérieuse du désordre psychologique. Enfin, c'est quelque chose où vraiment on n'a plus aucune prise, on ne sait plus ce qui se passe, on a des hallucinations extrêmement violentes, etc., etc. Et donc, au Canada, puis aux États-Unis, ils ont mené cette recherche-là. Ils se sont beaucoup focalisés au départ sur le silence. C'est ça qui les intéressait le plus au niveau acoustique, hein, je parle. Donc là, il faut bien voir hein, que moi, je me suis focalisée sur le son. Et que de fait, le son utilisé seul, il peut être très efficace. Mais quand on parle de privation sensorielle, on parle d'une situation où le détenu est toujours à l'isolement. Enfin, il est dans un ensemble, quoi. Il est placé à l'isolement et il a généralement d'autres privations qui vont avec ou d'autres brimades qui vont avec. Donc voilà, je parlais que du son, mais c'est pas parce que le son est pire que les autres techniques qui sont appliquées aux détenus, quoi. Donc ils ont beaucoup étudié au départ le silence. Et en fait, le programme LK Ultra a été extrêmement controversé parce que notamment il y avait des cobayes non volontaires qui étaient utilisés pour les recherches, notamment à l'université McGill par le psychiatre Cameron, qui était un des grands espoirs de la CIA et qui était absolument sans scrupules, qui lui utilisait ses patientes sans les en avertir pour faire des femmes qui arrivaient là ou qui étaient plus ou moins, enfin qui étaient internées d'office en fait dans son service et qui les a complètement bousillées en testant différentes techniques de ce qu'ils appelaient la déstructuration mentale. Sur elle. Donc c'était à la fois... Lui a plus utilisé en fait la saturation. Donc il utilisait des techniques de... Un de ses principaux assistants était ingénieur du son et il avait mis au point un gigantesque magnétophone qui faisait tourner 8 cassettes simultanément en boucle pour 8 patients différents. Ce qui fait que les patients, ils étaient dans leur chambre, j'allais dire un caisson, mais voilà, on est quasiment dans les mêmes conditions expérimentales qu'au départ. Ils étaient dans sa chambre et il était, soit il avait un casque, ou elle, puisque c'était essentiellement des femmes, elle portait un casque, ou bien elle avait des petits haut-parleurs qui diffusaient depuis l'oreiller, mais pendant parfois plusieurs semaines d'affilée, quoi. Et qui diffusait. Alors, il y avait également un contenu, un sens au niveau de ce qui était diffusé, puisque c'était du langage essentiellement, et c'était des phrases du style, au début des phrases qu'ils appelaient négatives, du style « vous êtes une chouineuse, vous arrivez à rien, vous êtes ultra nulle », etc. Et puis dans la deuxième phase de sa fameuse, enfin supposée reconstruction de la personne, des phrases qui étaient censées être positives. Enfin, qui devait en tout cas correspondre à l'idéal du docteur Cameron, et du style « vous allez bientôt pouvoir être une femme et une mère comme les autres, vous allez pouvoir élever vos enfants, être une bonne épouse, etc. » Bon, le résultat, c'est que ça a vraiment complètement bousillé les femmes qui étaient soumises. Elles perdaient absolument toute autonomie, et y compris, il y a eu des procès hein, contre le docteur Cameron et contre l'association à laquelle il appartenait, l'association professionnelle à laquelle il appartenait, qui l'a félicité pour son travail. Dans ces procès, bah, il apparaissait que les femmes avaient des énormes pertes de mémoire, enfin vraiment des très graves séquelles en fait, de toutes ces expérimentations. Après, ça a été bon. Et au moment en fait où MK Ultra a été arrêté parce que vraiment ça posait trop de problèmes au niveau éthique et c'était plus possible de tenir le truc sous le tapis, la CIA, la même année, donc en 1963, il me semble, en tout cas dans les années 60, a dit bon, on arrête MK Ultra. Et puis la même année, ils sortent le manuel Kubark. Et le manuel Kubark, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un manuel d'instruction, d'instruction sur l'interrogatoire. De la CIA. Et dans ce manuel Kubark, on retrouve des techniques de privation sensorielle qui sont marquées noir sur blanc, qui correspondent exactement aux expériences qui ont été faites, et où on dit que si le détenu est placé dans un environnement où il est totalement privé de stimuli sensoriels, on pourra le briser en quelques heures, au lieu de quelques jours dans un environnement normal ou avec des baffes et tout ça. Donc voilà, la privation sensorielle était instituée à travers le manuel Kubark. Ça a été repris ultérieurement dans d'autres manuels, notamment le manuel hondurien qui a servi à former, qui était nommé comme ça parce qu'il a servi à former les militaires Honduras. Et ça s'est poursuivi, ça s'est disséminé, c'était enseigné dans les académies militaires que les États-Unis avaient dans différents pays, notamment l'École des Amériques, qui a formé les tortionnaires en Amérique du Sud et centrale. Vous m'arrêtez, hein, si...
Alors du coup, ces tortures de privation ont été utilisées alors après en Allemagne avec des membres de la RAF.
Ouais.
Tu rappelais tout à l'heure cette fameuse histoire de l'IRA, des gens qui avaient été donc incarcérés et qui ensuite ont voulu porter plainte. Et devant la Cour européenne, l'acte de torture n'a pas été retenu. On a simplement retenu traitement
inhumain et dégradant.
Et je trouve que c'est là on arrive à un nœud aussi de ton bouquin qui explique quand même que le son... comme nouvelle arme et comme arme non létale et aussi une arme qui ne laisse pas de trace, en tout cas qui bouscule les codes présents jusqu'alors. On pouvait dire bon bah ça c'est un acte militaire ou alors ça c'est un acte civil, là ça se mélange, ça c'est un acte pratiqué par des gens dans le domaine sécuritaire, ça c'est dans le domaine hospitalier et là encore une fois ça se mélange. Quel est du coup, enfin c'est très pervers quoi. Comment se fait cette évolution et peut-être du coup rappeler un petit peu ce concept de non-létalité quand il revient un peu sur le devant de la scène dans les années 90.
Alors comment se fait cette évolution? Effectivement il y a eu, en fait c'est assez, enfin ça j'ai vraiment, ça m'a vraiment frappé à l'écriture du bouquin, c'est que la non-létalité. Les armes non létales, elles se sont vraiment appuyées sur ces recherches sur la privation sensorielle. On retrouve les mêmes termes, les mêmes objectifs. C'est vraiment frappant, quoi. Les modifications du comportement et en termes de pratique, et puis en termes d'objectifs, d'avoir un dispositif, donc une arme ou bien une pratique d'interrogatoire, disons, qui soit juridiquement inattaquable. Il y a ce souci d'être protégé au niveau juridique, de protéger les personnes qui pratiquent la torture, l'interrogatoire, comme ils le nomment, l'interrogatoire renforcé, c'est le terme officiel, ou qui utilisent ces dispositifs. Et également, il y a eu ce souci qui est devenu de plus en plus présent du rapport aux médias. Et il fallait que les armes ou les actions menées en temps de guerre ou en dehors du temps de guerre deviennent médiatiquement acceptables. Il fallait qu'elles passent dans l'opinion publique. Et ça, c'est extrêmement flagrant, aussi bien pour l'usage de la torture que pour celui de l'armement non létal. Pour la torture, par exemple, la musique, il y a une musicologue qui a fait un article vraiment passionnant sur lequel c'est vraiment avec cet article-ci que j'ai commencé à faire le travail d'enquête. Elle s'appelle Suzanne Kuzik. Et elle a beaucoup, beaucoup participé à faire connaître l'usage de la musique comme moyen de torture. Et elle a un petit peu recensé certains usages, etc. Et elle s'est beaucoup intéressée, en fait, après les révélations de cet usage-là, aux réactions qu'il y avait dans la blogosphère. Et elle dit que c'est sans cesse minimisé, en fait, l'usage de la musique. C'est pas de la torture, parce que, tu vois, c'est les mêmes morceaux qu'on écoute, et puis on les écoute, on en rigole, ou bien on les écoute et on s'éclate. Ça peut pas être de la torture. Sauf que, justement, ce qui n'est pas perçu, c'est que ça vient de ce que je disais tout à l'heure, quoi, d'une traite de plusieurs décennies de recherche sur la privation sensorielle, d'abord avec le silence, ensuite avec la saturation sonore.
Du coup, Suzanne Kuzik remet même en cause le terme utilisé pour ce genre de torture, qui est donc torture blanche ou no-touch torture, qui est une torture qui, a priori, ne touche pas. Quoi. Donc, c'est pas mal.
Voilà. Elle dit qu'au contraire, c'est une torture... Enfin, elle part sur des concepts assez foucauldiens, où elle dit qu'on est dans une... c'est l'expérience d'une dystopie. Alors, la dystopie, c'est le pire des mondes possibles. D'une dystopie où il y a un pouvoir omniscient qu'on n'arrive pas à repérer, et contre lequel on ne peut pas lutter, et qui est compris à l'intérieur de nous. Et c'est assez frappant dans les témoignages, en fait, de gars qui ont été à Guantanamo, donc aussi bien des Arabes, puisque c'était essentiellement des Arabes, en fait, qui étaient là-bas, que également un citoyen états-unien qui a été emprisonné parce qu'il était suspecté de complicité avec l'ennemi, où les gars disent « on peut très bien se préparer à la torture physique ». On peut se blinder contre ça, c'est possible. Mais la torture psychologique, il n'y a rien à faire contre ça. on ne peut pas s'y préparer, et ça empêche de récupérer des autres brimades qu'on subit. Et on n'arrive plus à formuler notre propre pensée à l'intérieur de ça, on ne sait plus qui on est, quoi. On ne sait plus comment faire. Et sur l'armement non létal, après, on a trouvé un peu le même type de... C'est une des généalogies de l'armement non létal. Ça a été justement cet usage de la privation sensorielle. Mais là, en fait, il y a des petits mots qui passent et tout. Je me suis déconcentrée. D'accord.
Parce que c'est une émission qui fait évidemment beaucoup réagir. Les locaux d'FPP sont en pleine ébullition. Voilà. Tout le monde vient toquer à la porte avec des questions. On nous demande donc, je lis la question à l'antenne, est-ce que les 151 dB dont tu parlais,
ouais,
ce n'est pas le seuil d'altération définitive de l'oreille, justement ?
En fait, il y a plusieurs échelles qui sont posées. Le seuil de douleur communément admis est de 120 dB. C'est celui qui est retenu dans la législation de manière officielle pour fixer les limites du bruit. C'est un seuil qui est absolument nécessaire à fixer pour... notamment, en fait, ça sert de garde-fou dans l'environnement professionnel, que des ouvriers, notamment, ne soient pas soumis à un bruit fort qui peut leur bousiller les oreilles et la santé de manière plus générale. Moi, dans le bouquin, je me suis appuyée sur le seuil que définit Jürgen Hartmann, qui, lui, le met à 140 dB, ce qui est beaucoup plus. Lui, en fait, dit que 120 dB, c'est le seuil de gêne. Ce qui m'a intéressée dans le fait de retenir son étude à lui, c'est que lui, il s'intéresse vraiment aux effets physiques du son. Donc, il n'est plus dans l'optique d'une régulation au niveau professionnel, de l'environnement professionnel ou de l'environnement tout simple de là où on vit, quoi. Mais de dire, bon, bah, concrètement, le son, qu'est-ce que ça fait ? Donc, lui dit, à 120 dB, il y a une gêne très forte. Mais dès 85 dB, en réalité, l'oreille, elle peut commencer à être endommagée. À 140 dB, pour lui, on atteint le seuil de douleur, c'est le seuil de danger pour l'oreille. Effectivement, c'est, bon, voilà, c'est le niveau d'un avion au décollage. Et là, l'oreille peut avoir soit des pertes temporaires d'audition et éventuellement une perte définitive d'audition sur certaines fréquences ou sur l'ensemble des fréquences.
Voilà, rappelons juste donc que l'échelle de mesure en fait, du niveau acoustique est logarithmique en décibels, ce qui veut dire que quand on passe de 100 à 103 dB, on double,
voilà,
la sensation d'intensité sonore.
Donc quand on passe de 120 à 140, oui.
Plus 100.
Voilà.
Juste peut-être pour terminer, je vois qu'on arrive vers la fin, mais tu as vraiment montré dans ton ouvrage que justement on avait on arrive à une conception hygiénisée, on a vu de la guerre, on veut que ce soit propre et du coup l'arme va très loin puisque ça déstructure à l'intérieur même par exemple de l'humain comme tu as pu montrer avec les armes non létales. Du coup ça fait qu'il y a un flou et que les personnes qui détiennent ces armes ne sont pas juridiquement poursuivies, ça tu avais pu le montrer, mais du coup il y a une absence de législation. Et je voulais prendre un dernier exemple qui était le mosquito, peut-être pour qu'on revienne sur ce dernier exemple, puisqu'en fait, là, on a un usage d'un son donc utilisé par des civils, enfin pas du tout dans le domaine militaire, et pourtant qui est très dangereux. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Le mosquito, vous pouvez l'acheter, vous, si vous voulez, sur Internet, à l'instant même. Ça coûte 640 €. Vous pouvez mettre votre petit mosquito. Après, vous risquez d'avoir des problèmes en France, puisqu'il y a une jurisprudence qui est défavorable aux mosquitos en France, ce qui est très heureux. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, en Grande-Bretagne, où il prolifère, il est présent dans les transports en commun. Si vous allez dans un McDo, ce qui est une très mauvaise idée, mais si vous passez, disons, devant un McDo en Grande-Bretagne, vous observez la façade, vous verrez un petit boîtier grillagé, et c'est un mosquito, un petit boîtier de 10 cm sur 10 cm. Ça produit des très hautes fréquences qui sont audibles en fait seulement par les plus jeunes, enfin les moins de 25 ou voire moins de 20 ans. Parce qu'une des caractéristiques de l'oreille humaine, c'est qu'elle perd très vite en audition des hautes fréquences. Et donc en fait, à partir de 25 ans, on est déjà un vieux au niveau auditif et on ne perçoit plus ces très hautes fréquences. Ça reste variable selon les personnes. Hein.
Bah justement, si vous êtes jeune, vous pouvez peut-être écouter ça.
Repeat after me. The mosquito is a small fly which pumps the blood.
Mosquito, appareil qui diffuse des sons très aigus que seules les jeunes oreilles peuvent entendre.
The mosquito anti-vandal system is the solution to the eternal problem of unwanted gatherings of youths and teenagers.
Le répulsif anti-jeune Mosquito est la solution pour lutter contre les rassemblements indésirables de jeunes dans les galeries marchandes et partout ailleurs où ils peuvent poser problème. La présence de ces adolescents décourage les véritables clients de rentrer dans votre boutique. Et cela nuit gravement à votre chiffre d'affaires et à vos profits.
Antisocial behavior has become the biggest threat to private property over the last decade.
Le comportement antisocial est devenu la plus grande menace à l'encontre de la propriété privée et aucun moyen de s'y montrer réellement efficace jusqu'à maintenant.
The Mosquito anti-vandal system has been described as the most effective tool in our fight against antisocial behavior.
Le répulsif anti-jeune Mosquito a été reconnu comme l'outil le plus performant dans notre lutte contre le comportement antisocial.
The longer someone is exposed to the sound, the more annoying it becomes. The closer one gets to the unit, the more effective it is.
Plus l'exposition au son est longue, plus la gêne est importante. Plus le jeune est proche de l'appareil, plus l'effet est rapide.
Designed by Howard Stapleton, manufactured by Compound Security Systems, CSS. Look for us on the internet at compoundsecurity.co.uk.
Quelle bande d'ordures, hein, ces jeunes. Ils n'ont pas inventé la cigarette, pas le blue jean, rien.
Ils ont inventé le chômage.
Pas vraiment. En tout cas, ils l'ont pas cherché. Faut chercher, hein. Van Gogh a cherché un peu de jaune. Quand le soleil a disparu, faut chercher, mon vieux. Faut chercher.
Voilà, c'est un extrait d'un documentaire radiophonique qui s'appelle Mosquito, qui a été réalisé par Olivier Tout-le-Monde, qu'on trouve facilement sur Internet. Juliette, peut-être pour finir, le temps est court et il y a une actualité aussi militante dont il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, Juliette? Le pouvoir a ses armes. On a vu donc que l'absence de législation permet en partie aux opposants de s'équiper aussi, puisqu'on a vu par exemple une association écologique, Sea Shepherd, s'équiper elle-même d'un LRAD pour effrayer les baleiniers. Qu'est-ce qu'on a d'autre, nous, comme possibilité pour...
Je pense qu'après, au niveau manif et tout, ça pose des vraies questions en termes d'occupation de l'espace public et de manifestation, quand à partir du moment où ces dispositifs sont utilisés. Donc ça, c'est à discuter. Hein. Moi, je n'ai pas les solutions. J'ai juste présenté le problème.
Question idiote, mais les bouchons d'oreilles, ça marche ou pas?
Non, ça ne marche pas vraiment. Il y a un journaliste de BBC qui a fait le test et il a dû, en fait, il s'est équipé au fur et à mesure. Et à la fin, il a réussi à venir jusqu'au LRAD. Mais il avait des boules-quies, un casque anti-bruit et une sorte d'énorme truc de cosmonaute sur la tronche. Donc c'est dur en manif, quoi.
Donc avec son scaphandre en manif, c'est ça.
Voilà. Donc après, ça reste à inventer. Mais après, moi, là, je me suis focalisée sur les aspects répressifs du son. Après, ce qui se passe aujourd'hui, les militaires s'y intéressent beaucoup, les policiers aussi. Le pouvoir, de manière générale, s'y intéresse beaucoup et c'est utilisé au niveau de l'urbanisme, donc par d'autres personnes que les militaires et les policiers. Mais il y a aussi une prise de conscience du son et un usage de plus en plus présent d'un son créatif dans l'espace public, fort heureusement. Et donc voilà, je ne vais pas relancer une émission là-dessus. D'ailleurs, je ne pourrais pas le faire. Mais je pense que ce sera très présent. Et après, je donne dans la conclusion du bouquin, je ne peux pas deviner les résistances qui émergeront à partir de ça. Il faut les inventer, il faut les discuter. Mais il y a plein d'usages. Il y a William Burroughs, notamment, qui parlait dans Electronic Revolution, donc dans les années 70. Il y a déjà un petit bout de temps qui lui préconisait l'emploi de magnétophones portatifs dans les rues où on diffuserait des faux bruits, soit des bruits de coups de feu pour démarrer des émeutes, soit des détournements du discours de président qui rebondiraient dans les rues où on le ridiculiserait. On mettrait des borborygmes à l'intérieur, on lui ferait dire l'inverse de ce qu'il a dit, on diffuserait ça de tous les côtés, etc., pour que le son devienne un outil viral de propagation du désordre, d'un désordre joyeux, quoi.
Bon, ben merci beaucoup. Juliette, on rappelle qu'on peut trouver ton livre facilement qui s'appelle « Le son comme arme, les usages policiers et militaires du son ». C'est à la découverte, c'est un petit bouquin, donc ça rentre presque dans une poche d'un manteau. Si vous passez à la FNAC, ça tombe
voilà,
dedans,
dans un nouveau fond et tout ça. Et sinon, il y a une version, donc un article gratuit sur Internet, sur le site d'Article 11. Et puis sinon, ben, je vous invite, si vous voulez venir demain, il y a une rencontre publique à la CNT Vignoles, donc c'est 33 rue des Vignoles dans le 20e arrondissement, à 19h30, où on va parler de ça. Et puis j'espère qu'on pourra plus développer justement une discussion, quoi, plus sur la discussion, sur qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir de ce truc-là, quoi.
Merci beaucoup, Juliette.